Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sûr Radio Girafe. Je suis Frédéric, le F de Girafe, et je suis ravi de vous retrouver pour mon émission intitulée, comme vous le savez maintenant, Autour d'eux, pour le deuxième volet consacré au thème de l'action humanitaire. Je rappelle que nous avions reçu la dernière fois, sur la première session, Anne-Sophie Porcher, une experte de l'action humanitaire, 25 ans de carrière, actrice de terrain sur ce sujet, ayant consacré toute une série de missions de solidarité, de coopération humanitaire au sein d'ONG, des Nations Unies et d'autres types de structures. Le principe aujourd'hui est de donner la parole à des étudiants du Havre, en formation à l'EM Normandie, et surtout à l'initiative d'un beau projet humanitaire qui mérite d'être mis en exergue et en valeur. J'ai donc le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Ilona et Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Ilona et Thomas qui sont à la tête d'une association qui s'appelle La Matitude et qui vont, nous, au fil de cette interview, nous présenter leur projet. Alors, sans plus tarder, je vais vous poser une première question extrêmement simple. C'est de vous présenter. Dites-nous qui vous êtes et quel est votre parcours avant de parler de votre projet et de votre association.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Thomas Senante. Alors je suis actuellement le président de l'association La Matitude. Donc alors moi mon parcours est un peu spécial avec cette association. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans j'étais déjà un membre de l'association. J'ai eu 1 an où je ne faisais plus partie de l'association. Et cette année j'ai repris la présidence de l'association. Sinon vis-à-vis de ça, j'ai fait un bac général, j'ai fait des études plutôt lambda et je me suis orienté vers le commerce. Et tout particulièrement le M Normandie vis-à-vis de l'association, La Matitude, qui était une association qui m'intéressait beaucoup. Et qui avait
donc ça veut dire que déjà de l'extérieur, avant de rentrer dans cette école, c'est quelque chose qui t'avait attiré.
Oui, tout à fait, lors des journées portes ouvertes, d'accord, etc. Ouais. On avait eu l'occasion de partager avec des anciens membres de l'association, donc plus vieux et qui faisaient partie de l'association avant. D'accord. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire partie de l'EM Normandie et de faire partie de cette association.
Mais ce qui démontre qu'au-delà de la qualité d'une formation, l'expérience étudiante et ce qui va autour d'une formation est aussi un élément d'attractivité et d'intérêt pour les candidats. Et aujourd'hui, tu es à quel niveau ?
Alors actuellement, moi c'est un peu compliqué, j'ai redoublé ma deuxième année, donc je suis encore année.
On n'en parle pas, on oublie.
donc je suis en deuxième année actuellement.
D'accord, donc voilà, allez, très bien. Et toi Ilona ?
Donc bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Ilona Lhuillier. Après avoir fait un bac général économique, je me suis dirigée vers l'EM Normandie dans le but de faire un bachelor en management international. Donc dès mon arrivée du coup à l'EM Normandie, je me suis tout de suite intégrée à la vie associative. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce qu'en plus du coup de ma formation, j'avais envie d'avoir des réels projets à côté, des vraies initiatives, de pouvoir m'intégrer à un groupe et tous ensemble en fait d'atteindre nos objectifs. Et du coup, moi je fais partie du coup de la promotion 2022-2023 de La Matitude et je suis partie au Pérou du coup en avril 2023.
Voilà. D'accord, donc tu nous as déjà donné une première information, mais on l'avait plus ou moins compris avec le jeu de mots La Matitude, que vos projets se dirigent vers l'Amérique latine et en particulier au Pérou.
C'est ça exactement.
D'accord, et là donc à l'EM, tu en es à quel niveau ?
Je suis en deuxième année.
En deuxième année aussi. D'accord, parfait. Très bien, merci pour cette première série de réponses à cette question. Et donc est-ce que vous pouvez là du coup présenter votre association ? Quand est-elle née ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels ont été les projets antérieurs ? Si vous pouvez nous en dire un mot.
Alors,
allez-y.
Ah, excusez-moi.
Alors, c'est Thomas.
Alors oui, tout à fait. Alors, La Matitude, c'est une association qui est présente à l'EM Normandie. Donc, le QG de l'association est à l'EM Normandie depuis 2006. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on renouvelle notre projet.
Alors, l'EM Normandie, on sait qu'effectivement, l'EM a plusieurs campus.
Tout à fait.
Mais le QG est ici au Havre.
Oui, l'EM Normandie du Havre, oui.
D'accord.
Tout à fait. Et du coup, oui, alors l'association La Matitude est présente depuis 2006 au Havre. Elle a été fondée en 2006. Et chaque année, en fait, il y a un renouvellement des membres. Et chaque année, le projet, en fait, suit une suite chronologique. Et chaque année, un nombre d'étudiants entre 10 et 15 personnes partent au Pérou pour finaliser notre projet, qui est de construire une école dans un bidonville à Arequipa.
D'accord. On aura l'occasion d'y revenir.
Et du coup, en plus du coup de l'apport matériel qu'on va faire avec du coup la construction de la salle de classe, il y a également un vrai apport humain, parce qu'à côté de ça, on va donner des cours aux enfants, on va rester à côté d'eux, on va se rendre dans les orphelinats, on va vraiment passer énormément de temps avec les enfants et du coup leur apporter beaucoup de connaissances et même d'amour, parce que c'est des enfants souvent, bah voilà, quand on va dans les orphelinats, qui n'ont pas forcément de famille et des gens vers qui se tourner. Et là, pour le coup, bah voilà, on joue avec eux, on les aide aux devoirs, enfin des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de vivre au quotidien.
Alors avant de rentrer un peu dans le détail de cette mission qui dure en fait, qui s'étale sur la durée, à titre personnel, pour toi Ilona, pour toi Thomas, pourquoi cet engagement pour l'humanitaire? Vous auriez très bien pu appartenir à une autre association artistique, culturelle, qui est tout aussi légitime, mais pourquoi voilà, cet engagement par rapport à l'humanitaire?
Alors moi j'avais besoin de me sentir utile, j'avais besoin de savoir que mon travail il allait bénéficier à autrui. Et là pour le coup voilà, j'ai travaillé depuis septembre, enfin, dès le mois de septembre du coup pour un projet qui a, enfin voilà, on a récolté de l'argent pour pouvoir aider des personnes. Et on sait pourquoi on travaille et forcément bah ça prend tout son sens. Et voilà, globalement c'est ça. Et toi Thomas?
Eh bien moi à vrai dire au tout début je savais pas trop ce qu'était l'humanitaire et je voulais dans un premier temps tester de nouvelles choses parce que j'étais pas encore sûr sur mon parcours en fait d'études supérieures, donc je voulais essayer de nouveaux horizons et du coup j'ai tenté l'expérience humanitaire et je suis rentré dans cette association.
Manifestement ça t'a convaincu parce que tu as récidivé. Bien, parfait, merci beaucoup. Vous êtes combien donc sur ce projet? Vous disiez une dizaine, une quinzaine de personnes chaque année, c'est ça, pour faire vivre ce projet, cette mission d'année en année?
Alors oui, tout à fait. Alors ça varie selon les années, mais on est entre 10 et 15 personnes. En fait, on fait des recrutements chaque année parmi les nouveaux étudiants. Donc c'est jamais normalement les anciens LAMA qui sont recrutés, c'est jamais des anciens. Et c'est les nouveaux étudiants qui viennent, on les recrute, on discute avec eux, on voit leur parcours, ce qu'ils peuvent apporter à l'association. On crée une équipe autour de ça, autour de ce projet, et puis on les aide dans un premier temps sur 3-4 mois pour les lancer, et puis ensuite qu'ils puissent finaliser et récolter assez d'argent pour partir deux mois et demi du coup au Pérou pour la mission humanitaire.
Voilà, bah c'était la question que j'allais vous poser ensuite, c'était de savoir quelle est la durée de vos missions à chaque fois, c'est deux mois et demi.
C'est ça, oui.
Mais étalé dans le temps, ou c'est un bloc de deux mois et demi?
Un bloc de deux mois et demi. En fait... tout au long de l'année, du coup, on va récolter, donc ça va situer entre septembre et mars. Mmh. On va essayer de récolter entre 12 000 et 15 000 euros. Donc, alors, cette année, c'est un peu plus parce que l'inflation et le prix des matières premières ont augmenté.
Ouais,
mais malgré tout, en gros, une fois qu'on a récolté en fait, ce minimum d'argent, on y va tous en fait, sur place. Il y a une association qui nous accueille qui s'appelle... Circamas, pardon. Mmh. Donc c'est une association qui est présente là-bas, qui a tout un complexe d'écoles sur tout Arequipa, et qui a des écoles dans des bidonvilles, notamment. Et nous, on y va du coup avec cet argent-là. Alors, bien sûr, nous prenons à nos frais nos billets d'avion, etc. Et cet argent-là sert uniquement à la construction de la classe, la main-d'œuvre, les matières premières en général. Et donc, voilà.
Et donc, si on rentre un peu dans les détails du projet, l'argent que vous arrivez à collecter et votre présence sur place font avancer le projet. Mais est-ce que vous utilisez, entre guillemets, c'est pas forcément le bon terme, mais est-ce que vous associez, je dirais, des Péruviens, des gens, des locaux, sur l'initiative? Est-ce que vous les embarquez avec vous, vous les impliquez?
Alors... plus ou moins. En fait, on a beaucoup d'aide sur place. Il faut savoir que c'est dans des milieux très défavorisés, donc surtout dans des bidonvilles. On a beaucoup les parents des élèves qui viennent nous aider, nous filer un coup de main, parce qu'on est aussi nous-mêmes sur le chantier. Donc on paye la main-d'œuvre, mais on est aussi là. Donc on participe activement en fait, sur le chantier. Donc, et puis il y a tout... Excusez-moi. Il y a toute l'association sur place qui nous loge, qui nous nourrit, qui nous blanchit. Et qui nous permet justement de les aider en fait à construire cette école.
D'accord. Et en plus de ça, du coup, toute la main d'œuvre, elle est bien évidemment péruvienne. Ce qui va être chef de chantier,
ça, voilà.
Chef de chantier, ça va être un péruvien, l'architecte également. Enfin voilà, nous on est en école de commerce,
oui, bien sûr,
on n'a pas les capacités.
Bien sûr. Donc vous avez une complémentarité.
Voilà, exactement. Et bien évidemment, du coup, on passe par des péruviens.
Et les synergies de compétences, quoi.
Exactement, c'est ça.
D'accord. Donc c'est le but principal, c'est de construire cette école. Elle est finie ou pas encore? Ou est-ce qu'il y en a, c'en est une autre que vous êtes en train de construire?
Alors du coup, on a commencé en 2006, du coup ça a été une école, donc au fur et à mesure on rajoutait des salles de classe, etc.
D'accord.
Au bout d'un moment, l'école, elle a été terminée,
bien sûr, ouais,
et du coup on est passé à une autre école, toujours de Circamas, que comme Thomas l'a dit, ils ont un grand complexe d'école et d'orphelinat, et au fur et à mesure, du coup, on a rajouté plusieurs salles de classe aux écoles qui sont du coup dans les bidonvilles.
D'accord. Et ça concerne toutes les classes d'âge, ou c'est pour les tout petits? Alors vous parlez d'orphelinat, mais on peut être orphelin très jeune comme orphelin un peu plus âgé.
Alors tout à fait. Donc en fait, dans les écoles, il y a de 4 à 15 ans, en fait, au niveau des âges. Et donc le nombre d'élèves dans l'école où on va, nous, actuellement, il y a 300 élèves. Mais c'est un complexe de plusieurs écoles, donc on peut imaginer jusqu'à 3000 élèves en fait, derrière tout ça.
Oui, donc ça, effectivement, un projet d'envergure.
C'est tout ça, exactement.
Est-ce que vous avez des relations avec les autorités locales? Alors, je ne sais pas comment est découpé le Pérou, par département, par région, par circonscription. Est-ce que vous avez des rapports avec les autorités locales, ou vous faites ça de manière donc associative, autonome? Et on vous laisse travailler de manière indépendante.
Alors nous, pour le coup, on nous laisse travailler de manière indépendante. Et vu qu'on passe tout le temps par l'intermédiaire, par le biais du coup de Circamas, l'association qu'on a sur place, c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est administratif, de signaler notre arrivée, etc. etc.
D'accord. Et Circamas est dirigé par des Péruviens.
Exactement, c'est ça.
D'accord. Donc c'est une synergie entre les deux associations. D'accord.
Et ils nous attendent chaque année.
D'accord. Donc prochain départ, c'est quand ?
En avril 2024.
En avril 2029, ça va vite venir,
c'est
effectivement.
Ça.
Et donc vous partez pour 2 mois et demi. Et ça s'intègre dans votre parcours d'études.
C'est-à-dire
tout que vous n'êtes pas ici, que vous passez là-bas, est intégré à l'ensemble du parcours de deuxième, troisième, quatrième année en fonction.
Voilà, c'est ça. Ça compte comme un stage de fin d'année, en fait.
Ouais. Ça compte comme un stage.
Exactement.
Alors,
un stage humanitaire.
Toujours des
coup.
Années, en
oui,
fait. Mais en fait, c'est un apport. Moi, je le prends sur mon temps personnel. Donc en fait, pendant mes vacances à moi, je pars de mon plein gré au Pérou pour pouvoir aider sur cette mission humanitaire.
D'accord.
Mais on a dans notre association des premières années en fait qui sortent juste du post-bac et qui eux en fait ont un stage de fin d'année en fin d'année à effectuer. Et ce voyage, donc cette mission humanitaire, leur permet de valider leur stage de cette manière-là.
D'accord, parfait. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette première série de réponses à mes questions. Je propose qu'on marque une petite pause musicale, et puis on se retrouve dans un instant. Je rappelle que je suis avec Thomas et Ilona, les dirigeants de l'association La Matitude de l'EM Normandie. A tout de suite.
This is unreal.
bien. Et on se retrouve après cette pause musicale avec, je le rappelle, l'association La Matitude de l'EM Normandie, avec Thomas, le président, et Ilona, la vice-présidente, avec qui on a déjà pas mal échangé sur ce sujet, mais encore beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres choses à connaître et à savoir sur ce projet. On peut parler d'humanitaire et de la guerre, c'est difficile, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment vous financez votre projet, vos projets, vos déplacements et tous ces éléments-là ?
Alors oui, tout à fait. Alors il faut savoir que on est une équipe de 10 à 15 personnes qui sommes regroupées à partir d'octobre pour récolter entre 12 000 et 15 000 euros, qui n'est pas une petite somme pour des étudiants qui n'ont pas forcément d'expérience.
C'est un joli budget déjà.
Oui, tout à fait. Et donc, dans ce but-là, on essaye de récolter de l'argent de plusieurs manières. On va tout d'abord organiser des événements à l'école, à l'EM Normandie. On va aussi organiser des événements à l'extérieur, qui peut être de faire des papiers cadeaux au doc. On fait plein de manières différentes. On joue aussi beaucoup sur les sponsors, donc le sponsoring. On va démarcher nous-mêmes des entreprises, que ce soit par réseau, que ce soit des entreprises qui sont en lien avec et en accord avec notre voyage humanitaire. On finance de toutes les manières assez faciles de récolter de l'argent. Il faut savoir qu'on est aussi une association humanitaire, donc on est sous loi 1901. Mmh. Donc on a aussi cet avantage de pouvoir défiscaliser en fait nos dons, ce qui est aussi intéressant au niveau des entreprises.
Évidemment, bien sûr. Et vous voulez pas lancer un appel sur...
Alors oui, vous pouvez nous retrouver sur Instagram si vous souhaitez nous contacter ou prendre plus de connaissances de notre association sur lamatitude.emn, donc sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir.
Parfait, on ira tous. Ilona, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type quand vous êtes sur place ?
Alors bien sûr, alors il faut savoir que la journée elle se fait en deux parties. Donc le matin, donc on se rend dans l'école. À l'école, du coup, on va construire la classe. Donc on a 2 heures de trajet en bus de là où on dort jusqu'au bidonville. Mmh. Mmh. Donc voilà, et les bus, bien évidemment, c'est pas un confort. C'est pas le confort qu'on a en France, voilà, c'est ça. Voilà, les bus sont, il y a au moins 50 personnes dedans, tout le monde est debout, on est tous collés les uns contre les autres, donc c'est pas 2 heures de répit où on peut dormir. Voilà, mais c'est une expérience, c'est ça. Là, pour le coup, voilà, on est en plein dans la culture locale. Du coup, on arrive sur place, et là, du coup, on va se diviser en 2 groupes. Il va y avoir 7 personnes qui iront, du coup, sur le chantier. Mm-hmm. Donc nous, c'était comme ça, voilà, quand moi je suis partie au Pérou, voilà, on était 7. 7 personnes qui allaient sur le chantier. Et du coup, l'autre partie du groupe qui va dans les classes pour faire un soutien aux professeurs et du coup aider les élèves, et également de donner des cours. On peut donner des cours de géographie, de géométrie, des choses dans ce genre-là.
Il y a une vraie action pédagogique.
C'est ça, exactement. Mmh. Et du coup...
Je voulais rajouter, il faut savoir que même en géographie, ils ont du mal à placer leur propre pays. Ouais. Donc il y a beaucoup de...
Évidemment.
Il y a un long chemin, en fait. On peut leur apprendre beaucoup de choses et c'est vachement intéressant.
Ouais, c'est bien.
Excuse-moi de
t'interrompre. Merci, il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Du coup, voilà, globalement, c'est tout pour le matin. Et du coup, ça change tous les jours. Donc par exemple, le lundi, ça va être tel groupe qui va faire la construction de chantier. Et le lendemain, du coup, ce sera l'inverse.
D'accord.
Voilà. On a tous un moment de répit. Parce que voilà, le chantier, c'est porter des gros sacs de ciment de 25 kilos. Si on fait ça tous les jours, on va vite être cassé.
Oui,
du coup, au moins,
c'est effectivement
on se relie.
À la fois la possibilité de récupérer, mais aussi de toucher à tout. Quoi.
C'est ça, exactement, exactement.
Chacun touche à tout.
Et l'après-midi, du coup, on se rend tous dans les orphelinats. Donc les filles du groupe se rendent dans l'orphelinat des filles et les garçons dans l'orphelinat des garçons. Et lorsqu'on est dans les orphelinats, on va faire de l'aide aux devoirs, jouer avec eux, parler avec eux, etc. Et également, donc nous, je sais, quand on y a été, on avait fait un grand rangement également au sein du coup de l'orphelinat. Parce qu'il faut savoir que les enfants, ils sont seuls. Il n'y a pas forcément de représentants adultes.
Ouais.
Ils se gèrent tout seuls. C'est voilà, il y a juste du coup la cuisinière qui vient le soir pour faire à manger, mais sinon ils sont en totale autonomie. Donc c'est vrai que de voir des gens, des adultes, des personnes pour un peu
les encadrer,
c'est ça, voilà, c'est toujours agréable.
Vous devez vous retrouver confronté quand même à des situations, notamment sur cette partie orphelinat, assez complexe.
Exactement.
À gérer par rapport à ces jeunes. Et puis vis-à-vis
même psychologiquement,
voilà, vous-même,
psychologiquement.
Et ça doit pas être simple à gérer. Justement, est-ce qu'il y a un appui psychologique ou en fait la psychologie se fait par l'action que vous menez, l'interaction que vous avez avec ces jeunes orphelins ?
Voilà, c'est ça, ça va se faire par les interactions qu'on a. Mmh. Après, voilà, si on a besoin, on est un groupe, on vit comme une famille, en fait. Donc si telle personne, elle a un petit coup de mou, bah voilà, il y aura toujours, on sera toujours présent pour l'écouter s'il y a besoin, etc.
Ils ont quel âge, ces orphelins? Ça va la tranche, en tout cas
Alors souvent, c'est entre... Bah, du coup, ça dépend forcément des orphelinats.
Ouais. Mmh.
Par exemple, il y avait un orphelinat où ça allait de 4 à 12 ans, et ceux dans lesquels on intervenait les après-midi, c'est environ de 10 ans à 17 ans,
d'accord,
approximativement. Et à partir de ce moment-là, il se gère vraiment tout seul.
Vous ne l'avez peut-être pas fait, et effectivement, ce n'est peut-être pas votre rôle, mais je dirais une approche sociologique et de compréhension des raisons pour lesquelles ces enfants sont orphelins. Est-ce que c'est dû finalement à des parents qui sont tombés malades et qui ont disparu, ou est-ce que c'est le fruit d'une violence dans ces régions du monde? Bon, voilà, on parlait au Pérou du Sentier Lumineux, de tous ces guérillas qui ont fait beaucoup de dégâts. Vous avez une idée, une analyse là-dessus?
Alors, il faut savoir qu'ils sont beaucoup dans les orphelinats, donc on n'a pas forcément toutes les histoires de tout le monde, oui. Mais on en a eu quelques-unes qui sont des histoires très touchantes. Et il faut savoir que nous, quand on y va, surtout, c'est pour leur donner un moment de répit. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont rien. Mmh. Et de nous voir, de pouvoir jouer avec quelqu'un, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger autre chose que leur misère actuellement, ça leur fait beaucoup de bien. Donc on est,
c'est une bouffée d'oxygène.
Quand on était là, voilà. Mmh. On a très peu discuté de tout ça, même s'il y en a d'eux-mêmes qui venaient discuter avec nous de tout ça.
Donc. Ça fait partie d'une thérapie quasiment. Hein.
Mmh. Tout à fait.
Après, voilà, chaque enfant est différent et certains vont être là à cause justement de violences causées dans la famille ou alors juste un abandon. Il y en a même qui viennent nous voir, oui, ma maman, elle va revenir me chercher, alors que
ouais.
Bah, pour le coup, ça fait plusieurs années que la petite fille en question, elle était ici. Voilà, c'est assez touchant, effectivement.
Est-ce que vous avez rencontré des vraies difficultés, des obstacles, des réticences ou des problèmes techniques qui ont fait que votre projet n'a pas toujours forcément avancé au rythme que vous souhaitiez?
Alors oui, il y a eu pas mal de... Alors il faut savoir qu'aussi sur place, on a eu pas mal de problèmes vis-à-vis du chantier et surtout dans les dernières années parce que les... questionnement du financement, ils ont tendance à beaucoup élever les prix et il y avait la barrière du langage, ce qui faisait qu'on devait nous-mêmes négocier les prix des matières premières, etc. Et c'était pas facile si on maîtrisait pas forcément bien l'espagnol. Mais voilà, il y a toujours, faut toujours être derrière, faut toujours suivre en fait où va l'argent. C'est vraiment le problème sur place le plus récurrent.
Ouais, les circuits financiers, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et la barrière de la langue, vous en parliez.
Voilà, et moi du coup d'un point de vue personnel, la barrière de la langue, ça a été un vrai obstacle à surmonter. Parce qu'il faut savoir qu'au collège, j'ai pris allemand, j'ai toujours continué l'allemand, du coup même au lycée, etc. J'ai jamais appris l'espagnol, donc bien sûr, une fois que j'ai été prise dans l'association La Matitude, j'ai commencé à apprendre cette langue, mais c'est un peu compliqué, en plus de la formation initiale à l'EM Normandie, le travail pour l'association, apprendre une autre langue, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc moi, je suis arrivée au Pérou en ayant quelques bases, mais rien de bien construit, enfin voilà, vraiment que la base, en fait.
Les bases.
Voilà, c'est ça. Et donc ça a été un peu compliqué au début parce que j'avais l'impression de passer à côté de plein de trucs. Il y avait voilà des enfants qui me parlaient, je comprenais pas forcément, c'était
frustrant.
Très frustrant, c'est ça. Et au fur et à mesure, voilà, au bout de 2-3 semaines, ça a commencé à aller mieux. J'ai commencé à comprendre les enfants, à comprendre même les adultes et à pouvoir discuter de choses plus profondes. Et, voilà. Et puis après, il faut savoir que les enfants, c'est un peu toujours la même chose aussi. Voilà, on dit bonjour, joue avec moi. Enfin, voilà, après, c'est des mots qu'on apprend au fur et à mesure.
Et aujourd'hui, vous êtes quasi bilingue, non?
Peut-être pas bilingue non plus, mais je me débrouille beaucoup mieux que quand je suis partie. Voilà, c'est ça.
Ça renvoie à ce sujet de la langue et surtout de cette nécessité de finalement d'apprendre des choses, parce que confronté à certains obstacles qu'on veut éviter ou en tout cas éliminer, c'est celui, finalement, grâce à cette expérience, que ce que vous en retirez.
C'est ça.
Aussi bien au plan personnel que professionnel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les 2-3 points vraiment fondamentaux? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pourriez énumérer. Mais vous, Thomas, toi, Ilona, qu'est-ce que vous retenez comme retour d'expérience?
Alors, il faut savoir que moi, il y a 2 ans, quand je suis parti, donc je sortais tout juste du bac. J'avais très peu travaillé dans ma vie. Niveau professionnel, j'avais fait des petits jobs à droite à gauche, mais très légèrement. Et en fait, le Pérou, pour moi, ça a été un changement dans ma vie, je dirais, parce qu'on a été accueillis là-bas comme des héros. C'est-à-dire qu'on a ouvert les portes du van, on ne savait pas à quoi s'attendre parce qu'on n'a pas d'idée concrète une fois avant d'être parti.
Ça doit être hyper valorisant ça quand même.
Et on a été acclamés, on a dû signer des autographes, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Ah oui, non, mais oui, c'était quelque chose d'extraordinaire et on en ressort, je pense, tous grandis. Et même au niveau professionnel, on se dit que c'est des gens qui n'ont rien et qui donnent tout. Et que nous, on a beaucoup et qu'on ne donne pas assez.
Voilà. Très belle formule. Ilona ?
Effectivement, du coup, on se sent beaucoup surestimé. Il y a un grand pic de confiance. On se dit, voilà, je suis très fière de faire ça. Je suis fière d'être au Pérou. Je suis fière d'aider les gens. Voilà, c'est une énorme fierté, du coup, que ça nous apporte personnellement. Après, le retour à la réalité, il est très compliqué aussi. Une fois qu'on revient en France, qu'on voit que, voilà, on a de l'eau potable. Enfin, voilà, la on volonté, fait, voilà, on a tout à disposition, alors que d'autres enfants n'ont absolument rien. Donc voilà, le retour à la réalité est assez compliqué.
Tout ce qui est simple ici est un problème.
Exactement,
là-bas.
C'est ça. Après, ce que moi, ça m'a apporté, du coup, personnellement, donc bien évidemment, du coup, les connaissances de la langue espagnole. En plus de ça, donc, une capacité d'adaptation énorme, parce qu'on a dû s'adapter directement, du coup, à un quotidien qui n'est pas le nôtre. Voilà, comme je le dis, je rejoins un petit peu ce que je disais avant. On est parti d'un pays où on avait tout à disposition, on arrive dans un pays où on a rien, du coup. Donc, faut forcément s'adapter, par exemple, aux douches froides, des choses comme ça, dont on n'a pas eu tout l'habitude. Aux nuits où il fait froid également aussi, parce que voilà, on était logés par Circa et un grand merci à eux. Mais après, évidemment, ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas non plus la ligne.
C'est pas le confort extrême.
Exactement, c'est ça. Donc, il faut s'adapter à ce confort-là, à la vie également en communauté, parce que pendant 2 mois, on va vivre avec des personnes qu'on connaît, avec qui on a travaillé, mais pas avec des personnes avec qui on a vécu. Donc, voilà, il faut, faut éviter, du coup, voilà.
C'est l'interaction humaine, l'interaction interculturelle.
Et en plus de ça, beaucoup de capacités physiques. Parce que forcément, du coup, le chantier, ça fait les muscles. Voilà. voilà, les sacs de ciment de 25 kilos, c'est pas à négliger. Ça nous apporte des capacités physiques énormes.
Bon, voilà. Effectivement, il y a de l'intellectuel, mais aussi du musculaire.
Il y a un peu de tout.
Il y a votre
tout,
ça qui est intéressant.
Et pour rebondir là-dessus, en fait, on se découvre quand même une capacité à passer au-dessus de ses limites, en fait, parce qu'au-delà de ça, on a aussi l'occasion, parce que sur place, ils nous laissent aussi voyager. Donc, c'est-à-dire qu'on a nos week-ends pour nous, et on a eu l'occasion de faire des voyages tels que des randonnées, des treks, etc.
Oui.
Ce qui nous a permis aussi, personnellement, de dépasser mes limites, d'avoir fait des randonnées à plus de 4000 mètres d'altitude.
Ça fait partie de l'expérience, c'est formidable, ouais, tout à fait. Bien, je vous propose de faire une deuxième pause musicale, avant de nous retrouver pour conclure cette émission, en vous remerciant pour ces réponses.
Lies hurt me too. So I'll go.
Bien, on se retrouve pour cette dernière partie d'émission, toujours avec Ilona et Thomas de l'association La Matitude de EM Normandie. Et quelques dernières questions avant de nous séparer, parce que le temps passe vite et c'est dommage, parce que vous avez sans doute encore plein de choses à nous dire.
Oui.
Peut-être une question sur finalement cette expérience. Est-ce qu'elle se transforme pour l'un d'entre vous, ou peut-être ceux qui ont travaillé avec vous, en vocation personnelle et professionnelle, c'est-à-dire que est-ce que vous voyez éventuellement faire carrière dans ce domaine, Ilona?
Alors pour ma part, je pense pas poursuivre ma carrière du coup dans le domaine de l'humanitaire. Après, pourquoi pas refaire des voyages humanitaires avec grand plaisir si j'ai l'occasion, je saute dessus, il y a aucune hésitation là-dessus. Après moi, je sais que plus tard j'aimerais devenir chef de projet, mais je sais pas encore dans quel
secteur,
que ce soit chef de projet web marketing, chef de projet événementiel ou je ne sais pas. Mm-hmm. Donc pour l'instant, je dirais que non, mais pourquoi pas, l'avenir
oui.
nous réserve peut-être de belles surprises.
Exactement. Et vous Thomas?
Et toi, et pour ma part, alors moi c'est une piste que j'explore en fait, parce que moi l'année prochaine je compte faire une alternance et j'envisage possiblement de faire une alternance dans différentes associations humanitaires, dont l'un de mes membres de ma famille proche mm-hmm. en fait fait partie.
D'accord.
Et donc j'aimerais explorer cette piste en fait. Alors bien sûr, si la possibilité ne se présente pas, ça ne se fera sûrement pas, mais si j'en ai l'occasion, bien sûr que je continuerai dans l'humanitaire.
Oui, donc ça reste quand même
ouais.
dans une ligne de mire
tout à fait.
Professionnelle à travers les études et une alternance. D'accord. peut-être pour voilà, arriver tout doucement à la fin de notre entretien, j'imagine que ces voyages, ces projets dans des pays lointains vous ont mis face à des situations un peu inattendues, un peu drôles ou moins drôles. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous révéler?
Alors, moi j'en ai une particulièrement. Quand je suis parti il y a 2 ans, il faut savoir que dans l'association, on est plusieurs à bosser sur différents projets. On a chacun un pôle de prédilection, etc. Et moi, j'étais dans le pôle événementiel, donc j'organisais les événements. Et ma responsable événementielle, celle qui me donnait les plannings, etc., on ne pouvait pas se voir. Et nous sommes partis ensemble au Pérou. Et finalement, je suis revenu avec elle au Pérou et c'est devenu ma copine. Donc comme quoi, le Pérou lit des...
C'est ça, les changements d'environnement,
voilà,
et en particulier
fait.
Peut-être le Pérou
c'est ça.
Permet de lier des amitiés qui n'étaient pas gagnées au départ.
Tout à fait.
Ilona?
Alors moi, j'ai une anecdote également, c'est plus humoristique, voilà, pas trop, ouais. pas trop sur le plan personnel. Alors il faut savoir que là où on vivait, du coup, il y avait un orphelinat qui était juste à côté. Et du coup, le matin, on partait quasiment en même temps que les enfants qui allaient à l'école. Donc nous, on commence à se diriger du coup vers notre bus et là, on voit le minibus des enfants qui commence à partir. Donc on va voir les enfants. On les voit, mmh. on va dire coucou, tout ça. Donc moi, j'y vais avec Oriane, qui était Oriane et Elodie, du coup, qui étaient avec moi au Pérou. Mmh. Donc voilà, des membres de l'association. On va leur dire coucou avec la main à travers la vide, tout ça. Et là, on voit une petite qui s'appelle Ziomara. Donc c'était un peu la petite leader, la petite têtue, celle qui aimait bien se rebeller, qui nous dit « Oh, j'ai oublié mon manteau ». Du coup, elle recourt vers chez elle, du coup, enfin, vers son orphelinat, là où est son manteau. Et là, du coup, le van, il part.
Ça va, ouais.
Et on la regarde. Et elle nous dit « Oh mince alors, j'avais oublié mon manteau ». Donc voilà, donc elle voulait juste ne pas aller à l'école parce que c'est une petite têtue, une petite rebelle. Et elle préférait rester jouer du coup avec ses quelques jouets.
Elle a fait le coup du manteau.
Voilà, c'est ça, exactement.
Thomas, autre anecdote peut-être ?
Nous, on en a eu plusieurs. Alors, il faut savoir qu'on a tous été logés au Pérou. On était dans un ancien couvent qui a été aménagé pour nous. On avait juste des anciennes chambres de bonnes, en fait. Mm-hmm. Et donc, on était tous serrés. Et on avait donc douche commune, toilette commune, etc. Et un beau jour, il s'est trouvé qu'on a eu une remontée d'égout. Donc on a eu une inondation. Là où on dormait, etc. Donc voilà, avec tout ce qui va avec. Donc,
oui, on a compris.
C'était les aléas.
Ça, oui, c'est des situations un peu compliquées aussi à gérer.
C'est ça.
Autres anecdotes ou...
Non, j'en ai pas qui me viennent en tête.
Peut-être une dernière question, qui est une question traditionnelle à l'issue de tous nos entretiens sur Radio Girafe, que vous allez peut-être trouver un peu incongrue, mais on la pose quand même, et vous avez le droit de ne pas y répondre. Yona, si je vous le demande, et je le demanderai à Thomas, tu n'y couperas pas. Notre radio, comme vous le savez, s'appelle Radio Girafe, et donc on a décidé de demander à chacun de nos interlocuteurs de leur demander... Quelle girafe ils sont ? Ilona, vous êtes quelle girafe ? Quel type de girafe ?
Alors, je pense que Thomas, du coup, aura la même réponse que moi, mais une petite girafe lama, quoi. Bien, bien déterminée, bien courageuse.
Oui, tout à fait, on se rejoint là-dessus. En fait, les lamas, c'est une grande famille, malgré le fait que depuis 2006, en fait, chaque année, l'équipe change. On s'entend tous bien, on partage tous en fait, une expérience commune.
C'est ça.
Et donc, les lamas, ça unit, et donc, les lamas, c'est une grande famille.
D'accord, donc on va oublier un petit peu la girafe pour une fois.
Une petite tribu girafe, en fait.
Et on va faire une place pour les lamas.
C'est ça.
Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci infiniment, Thomas. Merci, Ilona, pour ce témoignage, cette transmission d'expérience qui nous éclaire sur cette belle initiative partie donc de votre association Lamatitude. Il ne me reste plus donc à remercier les auditeurs qui nous ont suivis. Je rappelle que je recevais donc les étudiants de l'association Lamatitude, Thomas et Ilona. Merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de mon émission Autour d'eux, le sujet étant, comme vous l'avez compris aujourd'hui, sur l'action humanitaire. On se retrouve donc très bientôt. Vous êtes sur Girafe, Radio Girafe Normandie. Je suis Frédéric, le F de Girafe. Vous retrouvez-nous en multidiffusion sur Radio Girafe Normandie et aussi sur les réseaux sociaux, ainsi que sur Deezer. À très bientôt, merci à vous.